Il y a cette phrase attribuée à Steve Bannon qui dit: la véritable opposition, ce sont les médias. Et la manière de s'occuper d'eux, c'est d'inonder la zone de merde.
C'est assez direct comme formule.
C'est très direct, mais ça décrit tellement bien ce sentiment, cet épuisement qu'on peut ressentir aujourd'hui. On a l'impression d'être face à un raz-de-marée d'infos, de polémiques, de bruit permanent.
Ah mais complètement. Et le vieux réflexe qui était de dire il faut diversifier ses sources, bah il ne marche plus très bien.
Non?
Si toute la zone est inondée, ce n'est pas en ouvrant plus de robinets que l'eau va devenir plus claire. On risque juste de se noyer plus vite en fait.
C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se pencher sur une série d'articles du blog Philosophie, Médias et Société de Julien Lecomte. L'idée, c'est vraiment de s'en servir pour construire une sorte de guide de survie.
Une boîte à outils.
Voilà, pas un truc académique, mais des réflexes, des outils concrets pour apprendre à nager dans ce déluge, quoi. Identifier le bullshit, les fausses nouvelles, sans y laisser toute son énergie.
Et le point de départ, je trouve, est intéressant, c'est de se dire qu'avant même de se demander est-ce que c'est vrai, il y a une question plus simple et plus rapide.
Laquelle?
C'est est-ce que cette source a l'air fiable? On va d'abord apprendre à repérer les gros signaux rouges qui clignotent, un premier filtre pour juste ne pas perdre son temps.
Alors, allons-y. Le concept qui m'a vraiment marqué dans ces articles, c'est cette idée de Daniel Kahneman sur les deux vitesses de la pensée.
Ah oui, le système 1 et le système 2.
Exactement. Ça change un peu la manière de voir comment on consomme l'info. On a ce pilote automatique, le système 1, qui est rapide, intuitif.
Et qui tourne 95% du temps.
Voilà. Et puis on a le pilote manuel, le système 2, qui est lent, qui analyse, mais qui demande un vrai effort.
Et c'est normal. On ne peut pas tout analyser en profondeur, ce serait impossible, on serait paralysé avant même le petit déjeuner.
Donc l'enjeu...
L'enjeu, ce n'est pas de forcer notre système 2 à tout faire. C'est plutôt d'entraîner notre pilote automatique, notre système 1, à repérer les dangers les plus évidents, de lui donner des red flags, comme disent les articles, pour qu'il tire la sonnette d'alarme quand un truc cloche.
Une sorte de kit de premier secours pour l'esprit. Alors, premier signal d'alerte à installer. Le plus visible, j'imagine, c'est quand l'émotion prend toute la place.
C'est le plus fiable. Les titres en majuscules, les points d'exclamation partout.
Scandale! Vous n'allez jamais croire ce qu'il nous cache.
Bah voilà, typiquement. Le but là, ce n'est pas d'informer, c'est de pirater notre cerveau. Ces titres au putaclic, ils sont faits pour ça. Court-circuiter la raison et déclencher une réaction immédiate. La colère, la peur.
Le clic.
Le clic. L'info devient secondaire. Le vrai produit qu'on nous vend, c'est l'émotion forte.
Et ça va plus loin que le titre. C'est tout un écosystème qui se nourrit de ça, de nos bas instincts. J'ai remarqué, plus on passe de temps sur certains sites, plus on se sent indigné, anxieuse. C'est comme si notre colère devenait leur business model.
Mais c'est exactement ça. Leur carburant, c'est notre indignation. Ce qui nous amène à un autre red flag, la confusion totale entre les faits et les opinions.
Ah!
Un truc qui devrait nous alerter direct, c'est quand un article donne plus d'importance à l'avis d'un éditorialiste ou à un témoignage qu'à des données vérifiables.
C'est le fameux « tout se vaut ». L'opinion de mon voisin sur un sujet complexe aurait le même foi que 200 études scientifiques.
Précisément. Et les sources insistent beaucoup là-dessus, sur ce qu'on appelle la hiérarchie des preuves. Une anecdote, c'est une anecdote. Ça n'a pas le même poids qu'une étude contrôlée, qui elle-même a moins de poids qu'un consensus d'experts.
Mettre tout sur le même plan, c'est une technique pour noyer le poisson, en fait.
C'est très efficace.
Et en parlant d'experts, justement, les articles nous mettent en garde contre deux profils. D'abord, l'expert subversif, celui qui est seul contre tous, tu vois, le Galilée moderne.
Mais qui souvent juste tort. Bien sûr, la science avance par la contestation, mais un consensus scientifique, ce n'est pas une simple opinion majoritaire. C'est le résultat d'une accumulation écrasante de preuves.
D'accord. Et l'autre profil?
L'autre, c'est l'expert omniprésent. Le spécialiste qui un jour parle de géopolitique, le lendemain de virologie et le surlendemain de politique monétaire.
Ah, le fameux expert en tout.
Qui est donc expert en rien. L'expertise, c'est pointu. Cette omniprésence, ça cache souvent une grille de lecture idéologique qu'on plaque sur n'importe quel sujet. Ce n'est plus de l'analyse, ça. C'est du commentaire.
Ok. Donc pour ce premier tri rapide, on se méfie du ton hyper émotionnel, du mélange fait-opinion et des experts un peu trop spectaculaires. Mais parfois, on tombe sur un article qui a l'air sérieux, ton calme, pas de titre racoleur. Mais un truc nous chiffonne. C'est là que ça se corse, non?
C'est là qu'on active le système 2.
On passe en pilote manuel.
Exactement. On sort la loupe et on regarde la mécanique du discours. Et là-dessus, les sources sont très utiles. Elles décortiquent des techniques de manipulation bien plus subtiles.
J'en ai une en tête qui me fascine. C'est la posture de la victime. Le fameux « on ne peut plus rien dire ».
Ah oui?
Souvent dit par quelqu'un qui a une tribune dans un grand média devant des centaines de milliers de personnes. Le paradoxe est dingue.
C'est une inversion très habile. La personne se présente comme une victime pour mieux attaquer, tout en profitant à plein de la liberté d'expression qu'elle prétend avoir perdue.
Et il y a aussi la fausse neutralité du « je ne fais que poser la question ».
Redoutable. Si je dis « est-il vraiment raisonnable de penser que la Terre est ronde ?», je pose juste la question.
Tu n'affirmes rien.
Je n'affirme rien. Mais je sème le doute. J'installe une fausse équivalence entre une certitude et une idée absurde.
Ça me fait penser à une autre technique, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Le fameux « prouvez-moi que j'ai tort ».
Alors que la logique élémentaire, c'est à celui qui affirme d'apporter les preuves.
Bien sûr.
C'est une stratégie d'épuisement, en fait. Les sources citent la loi de Brandolini, qu'on appelle aussi le principe d'asymétrie du baratin.
J'adore le nom.
Elle dit que la quantité d'énergie pour réfuter des conneries est 10 fois supérieure à celle qu'il faut pour les produire. C'est un combat inégal, quoi.
C'est clair. Au-delà de ces figures de style, les textes parlent de moisissures argumentatives. L'image est parlante, des raisonnements qui ont l'air logiques, mais qui sont pourris de l'intérieur. Le classique, c'est l'épouvantail.
L'homme de paille, ah oui, il est partout celui-là. Tu ne réponds pas à l'argument de ton adversaire, tu le caricatures, tu le rends grotesque.
Ouais, et tu attaques la caricature. C'est plus facile.
Beaucoup plus facile. Une autre moisissure très courante, c'est la généralisation abusive. On prend un cas isolé, un fait divers, et hop, on en tire une loi générale.
Un membre de tel groupe a fait ça, donc tout le groupe est comme ça.
Et c'est un des piliers de la pensée raciste, par exemple.
Et puis, il y a ma préférée, je crois, la confusion entre corrélation et causalité. L'exemple des cigognes dans les sources est parfait.
Ah oui, excellent.
On observe qu'en Alsace, dans les villages où il y a beaucoup de cigognes, il y a aussi plus de naissances. Donc ?
Donc, les cigognes apportent les bébés.
Évidemment.
Alors que la vraie raison, la cause cachée, c'est que les cigognes nichent dans les zones rurales, où la taille des familles est juste traditionnellement plus grande. Ce n'est pas parce que deux choses arrivent en même temps que l'une est la cause de l'autre. Ça paraît évident, mais notre cerveau adore créer des liens de cause et effet partout.
D'accord. Beaucoup qu'on a notre radeau de survie, avec les red flags et une carte plus détaillée pour repérer les raisonnements qui partent en vrille, on est mieux équipé. Mais c'est là que les articles posent la question qui fâche. On a beau connaître toutes ces techniques, pourquoi est-ce que ça marche si bien?
Et la réponse qu'ils donnent, c'est que le problème, c'est peut-être nous.
C'est le cœur du sujet. Et c'est un peu dérangeant, mais fascinant. Ces analyses suggèrent que notre cerveau, en fait, il n'est pas du tout optimisé pour chercher la vérité.
Ah, c'est quand même.
Il cherche quoi, alors?
Il cherche autre chose. La connexion sociale, la confirmation de nos idées, le frisson de l'émotion. La vérité, si elle vient, c'est un bonus.
C'est une idée très forte, ça. On ne partage pas une info parce qu'elle est vraie, mais d'abord parce qu'elle nous fait réagir.
Exactement.
Un contenu qui nous choque, qui nous fait rire ou qui nous met en colère, il a un potentiel viral bien plus élevé qu'une analyse nuancée de 15 pages. La nuance, c'est pas sexy.
Non, ça ne déclenche pas cette décharge d'émotions. Et par-dessus ça, on ajoute le biais cognitif le plus puissant. Le biais de confirmation.
Notre tendance à chercher ce qui confirme ce qu'on pense déjà.
Voilà. Si une info va dans mon sens, mon seuil de critique s'effondre. Je vais l'accepter tout de suite. Si elle me contredit, ah, là, je vais chercher la petite bête, la moindre faille.
Et les algorithmes des réseaux sociaux sont passés maîtres dans l'art d'exploiter ce biais. Ils créent ce qu'on appelle les bulles de filtre.
Bien sûr.
Je le vois bien sur mes propres fils d'actualité. L'algo a compris ce qui me fait réagir et il m'en donne toujours plus. Il m'enferme petit à petit.
Son but, ce n'est pas de nous ouvrir au monde. Son seul but, c'est de maximiser notre temps de présence sur la plateforme pour nous montrer des pubs. Et pour ça, le mieux, c'est de nous conforter dans nos certitudes et de nous nourrir d'émotions fortes.
Le doute et la nuance font fuir l'audience.
Exactement.
Et il y a une dernière chose, plus sociale, que les sources soulignent. Partager un contenu, ce n'est pas juste transmettre une info. C'est un acte identitaire. C'est une façon de dire « Regardez, voilà mon camp, voilà mes valeurs ».
C'est ça. On signale son appartenance à un groupe. Et quand le partage devient un marqueur social, la vérité de l'info devient presque secondaire, tu vois. L'important, c'est que l'article soit un bon drapeau agité pour rallier sa tribu.
Alors, si on fait le bilan, on a commencé par se sentir noyé, On a appris à construire un radeau de survie pour le tri rapide avec les red flags du système 1.
Mm-hmm.
Ensuite, on a développé des outils de navigation plus fins pour analyser les discours avec le système 2. Et finalement, on découvre que le plus grand danger, ce n'est pas tant la tempête que notre propre tendance à vouloir piquer une tête dans les eaux troubles.
C'est une excellente métaphore. La conclusion, c'est que l'information de qualité, ça a un coût. Ça coûte du temps à produire, à vérifier.
Un effort.
À l'inverse, la polémique, la désinformation, le bullshit, c'est low cost. C'est facile, c'est rapide, c'est rentable. Du coup, être un citoyen éclairé, ce n'est plus un état de fait. C'est une décision consciente. Ça demande une vigilance constante.
Et pour finir, il y a une pensée qui m'a laissée songeuse. Les sources notent que les outils qu'on utilise pour débattre, comme Twitter...
X maintenant.
Exact, oui. Par leur design même, la limite de caractère, la prime à la réaction immédiate, ils favorisent la punchline, la polarisation, le conflit en fait. Et ça soulève une question vertigineuse.
À laquelle ?
Si l'architecture même de nos places publiques numériques est pensée pour amplifier le conflit plutôt que la compréhension, comment peut-on seulement imaginer et construire des espaces qui favoriseraient au contraire un dialogue réellement constructif, apaisé et nuancé ?